Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 13h03. Bienvenue dans votre émission Impact du Studio Bus avec Emma Puma et Thomas Genot.
Bonjour.
Bonjour.
Au sommaire de notre émission, il sera question d'enquêtes menées par les journalistes de Master 1 sur 777. L'une concernera le volet aviation du groupe et l'autre des prêts au taux d'intérêt délirant.
Nous recevrons également Mickaël Dantine, criminologue, pour décrypter cette enquête 777.
Nous ferons également le point sur deux enquêtes qui ont été publiées récemment, l'une dans Hashtag Investigation et l'autre sur Disclose.
Mais avant cela, place à l'actualité du jour. À la une, l'affaire des viols de Mazan qui arrive enfin à son terme. Le verdict est tombé, Dominique Pellicot, mari de Gisèle, a été condamné à de la prison ferme. Les autres accusés ont également été reconnus coupables. Laura, vous avez suivi ce verdict pour nous.
L'audience criminelle est levée. C'est ce qui vient d'annoncer le président Roger Arata après 4 mois d'audience. Le procès des viols de Mazan s'est achevé aujourd'hui et Dominique Pellicot est condamné à la peine maximale. 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme pendant presque 10 ans avec plus de 200 viols recensés. Pour ce qui est des autres accusés, ils sont tous reconnus coupables mais condamnés à des peines très inférieures au réquisitoire. Les peines démarrent à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. La cour a notamment condamné 4 accusés reconnus coupables de viol ou de tentative de viol à une peine de 5 ans de prison, partiellement assortie de sursis. Jean-Pierre M., le seul accusé à ne pas avoir comparaître pour des actes commis sur Gisèle Pellicot, mais sur sa propre épouse, a été condamné à 12 ans de prison. Et pour ce qui est de Gisèle, elle ne s'est pas encore exprimée quant au procès, mais je cite « les enfants sont déçus pour ces peines basses ».
Gisèle Pellicot est devenue malgré elle un symbole des violences faites aux femmes, illustrée par la phrase « la honte doit changer de camp ». Gisèle avait refusé le huis clos, ce qui a permis de mettre en lumière le cas des agressions par soumission chimique. Ce type d'agression sévit également au sein de notre cité ardente. Morgane Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en journalisme et vous avez réalisé une enquête sur ce phénomène au sein du Carré. Est-ce que les témoignages que vous avez récoltés vous ont permis de dégager un schéma d'action ?
Alors oui, cette enquête, je l'ai réalisée à partir de 27 témoignages de victimes qui ont subi des faits de soumission chimique dans le Carré ici à Liège. J'ai découvert en effet un fonctionnement plutôt systémique. Déjà, toutes les victimes sont ou des femmes ou des personnes issues de la communauté LGBTQIA+. Donc c'est des victimes qui sont très ciblées par les agresseurs. Et elles partagent toutes en fait la même histoire. Elles faisaient leur soirée, elles dansaient et puis tout à coup, les jambes flanchent, la vue se brouille et c'est le trou noir. On se réveille le lendemain avec aucun souvenir. Et parfois on se réveille à l'hôpital où il n'y a pas nécessairement en fait un traitement médical qui est assez adapté à ce type de victime. On va en fait faire la différence entre les victimes qui ont subi des violences sexuelles à la suite de soumissions chimiques, qui elles sont souvent quand même bien prises en charge, mais il y a aussi ces victimes qui ont été entre guillemets uniquement droguées, qui elles vont un peu être mises de côté et qui n'ont pas recevoir le traitement psychologique, médical nécessaire.
Et est-ce que des mesures sont mises en place par la ville de Liège pour lutter contre cela ?
Alors oui, il existe un plan de prévention à la ville de Liège qui en fait propose des formations pour ces établissements et qui leur permettent en fait d'améliorer la sécurité au sein de leurs établissements, dans leurs soirées. Et elles vont recevoir ce catalogue Safe Zone où ils peuvent en fait faire la fête de manière sécurisée. Mais il y a beaucoup d'établissements qui refusent de suivre ces formations, qui vont même mal les recevoir et voir ça comme une attaque, alors que dans les témoignages que j'ai recueillis, pas mal de fois, c'est même le personnel de l'établissement qui est mis en cause.
Merci Morgane, nous rappelons que votre enquête est retrouvable sur le site impact.be.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité, les écoles du centre de Liège se sont retrouvées bloquées par les professeurs ce matin. La raison ? L'approbation d'un décret en matière d'enseignement par MR engagé en ce début de semaine. Éléonore Malmandier est allée à leur rencontre.
En face de l'école Maurice d'Estenay, le feu brûle. Interdiction de rentrer à l'intérieur. Les professeurs sont remontés en cause. La nouvelle réforme gouvernementale.
On est en grève, on manifeste depuis maintenant une semaine. Tout simplement parce que l'enseignement communal liégeois va être touché de plein fouet au niveau de son secondaire qualifiant. Nous avons rencontré la ville mardi et notre PO nous a annoncé les chiffres de pertes. On est sur une cinquantaine d'équivalents temps plein. On a des sections qui ferment, une école qui ferme, les 7 TQ qui sont fermés aussi. Il est écrit noir sur blanc que le but c'est de sortir les élèves le plus vite possible de l'enseignement qualifiant. Et donc on se retrouve comme ça avec tout un tas de gosses qui vont se retrouver sans cadre et qui vont devoir retrouver un cadre par eux-mêmes. Et avec nos élèves, c'est extrêmement compliqué.
Demain, ils organisent une manifestation sur la voie publique pour montrer leur mécontentement.
On va faire un cortège qui va d'abord se rassembler devant le siège du MR, place Saint-Lambert. Ensuite, on va se diriger vers le boulevard de la Souvenière. On va aller vers le boulevard d'Avroy, reprendre par la rue Paradis pour aller dire bonjour au bureau des engagés. Et on va terminer ça devant les Guillemins. Le but de ce cortège, c'est de dénoncer justement toutes ces mesures qui vont faire fermer nos qualifiants étudiants dans les 6 mois à 1 an et on espère être le plus nombreux possible. On ne va pas se cacher, on espère être rejoints par d'autres qui se sentent concernés.
Une grève qui continuera donc demain. Le Front commun syndical invite toutes les écoles aux alentours à rejoindre le mouvement. Il prévoit quelques 300 personnes sur place. NS, on connaît le montant de l'indemnité du retard du tram ?
Tout à fait Thomas, pour rappel, des discussions se tiennent entre Tramardan, le consortium dans la gestion des travaux du tram, et l'OTW, l'opérateur de transport de Wallonie. Un montant qui s'élève à 7 millions de redevances selon nos confrères de Today in Liège.
Mais un flou règne encore sur le montant de cette indemnité.
Effectivement, ce montant de 7 millions pourrait s'ajouter à celui de 10 millions imposé via un accord en juin 2023 par l'ancien gouvernement. En tout cas, ce n'est pas ce que a précisément déclaré le ministre de la Mobilité, François Deken. Il a simplement dit que le montant de la redevance s'élèvera à 7 millions, sans précision.
Et ce montant est basé sur les derniers retards que le projet a pris. Est-il susceptible d'évoluer ?
Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que la mise en service du tram était initialement prévue le 31 janvier 2025 et qu'elle s'est retrouvée décalée au 15 avril. Ce retard est déjà pris en compte dans l'indemnité. Concernant l'évolution de la situation, toujours selon nos confrères de Liège, l'opérateur de transport de Wallonie a déclaré que les chauffeurs seront tous bel et bien formés dans les temps. Donc le montant ne devrait pas évoluer. Toutefois, attention, nous ne sommes à l'abri de rien dans ce dossier.
Merci Inès. Et pour clôturer ce journal, place à la culture, Noël approche à grands pas et il est l'heure de trouver les derniers cadeaux. Des dépenses qui sont parfois compliquées pour les étudiants. Nous leur avons tendu le micro pour savoir comment ils comptent se débrouiller pour allier petites bourses et festivités.
Ces sons de cloches retentissent de plus en plus dans nos rues et c'est normal, Noël approche à grands pas, l'occasion pour les étudiants de choisir leurs proches. Mais pour certains, cette période chargée peut être compliquée financièrement.
Cette année, je vais offrir des cadeaux, mais avec un très petit budget, autour de 100 euros, grand maximum. Parce qu'avec les cours, mon master et les travaux à rendre, j'ai pas pu avoir un job étudiant.
Cumuler études et travail, c'est possible. C'est d'ailleurs ce que fait Océane depuis des années.
C'est compliqué d'avoir deux jobs étudiants en même temps, en plus de mes études. Surtout que je fais deux masters en même temps. Mais j'ai toujours couplé comme ça et j'arrive à m'en sortir. Maintenant, j'ai pas la vie sociale la plus débordante au monde.
Malgré tout ce travail acharné, Océane a trouvé la solution miracle pour un Noël à petit budget.
Ce qu'on fait maintenant avec mes parents, on fait une cacahuète. Comme ça, c'est plus simple. Et entre amis, on fait aussi une cacahuète. Je dois être à moins de 100 euros. 60 euros, je pense.
D'autres étudiants comme Laura s'organisent des mois à l'avance pour être sûr de faire plaisir sans manquer d'argent.
Pour mes cadeaux de Noël, majoritairement 500 euros. Parfois, ce sont mes parents qui m'aident et j'économise jusqu'à Noël. Et en plus de mon job étudiant, je peux offrir des cadeaux à mes proches.
Ce mercredi, la revue d'investigation Médor a organisé un vide-grenier en collaboration avec l'ASBL La Barricade. L'objectif était de mettre en vente d'anciens numéros de la revue. Une initiative bien pensée, surtout pour un étudiant dont un membre de la famille est féru de journalisme et serait intéressé pour Noël, clin d'œil. Dans quel cadre cette initiative s'inscrit-elle ? C'est ce qu'a voulu savoir NS Dridelli.
Les sorties de Médor, tel est le nom d'un événement organisé par la revue d'investigation. Objectif, fêter la sortie de leur 37e numéro et avec en clôture un vide-grenier. Une bonne occasion donc, avant les fêtes, pour la revue coopérative de mettre en vente des stocks d'anciens numéros. Mais pas que, comme nous le dit Tiffany Lasserre, responsable communication de Médor.
Aussi, ça s'installe dans le contexte de notre déménagement, puisque nous allons changer de bureau à Bruxelles. Et donc, c'était l'idée de déstocker un peu, de vider notre grenier, qui est en fait une cave, au lieu de stocker nos numéros et de les déménager pour rien.
L'occasion donc de proposer d'anciens numéros aux pages parfois atypiques. En témoigne le requin du numéro 31, ou encore le trou, en plein milieu du 33e numéro de la revue. L'occasion aussi de retracer plusieurs années de travail pour une revue pionnière en matière d'investigation en Belgique, comme le rappelle Quentin Norfalis, rédacteur en chef et cofondateur de Médor.
Je pense qu'en Belgique, on n'était peut-être pas les premiers à faire ça dans la presse, mais en tout cas parmi les tout premiers, les journalistes sentaient à cette époque-là qu'ils n'avaient pas spécialement le temps, pas spécialement la latitude, pas spécialement l'entourage non plus, pour faire du journalisme d'enquête ou du reportage en immersion de façon aisée dans plein d'autres médias.
Au-delà de son modèle économique basé sur des coopératives, la revue Médor a surtout montré que les méthodes d'enquête ne sont pas uniquement destinées qu'aux grandes affaires de corruption ou encore aux scandales politiques.
On peut appliquer en fait des méthodes d'enquête à plein de sujets. Et donc ça nous permet effectivement de pouvoir aller très loin sur des questions de harcèlement à Lucé Louvain dans le dernier numéro, et en même temps de faire une enquête tout à fait sérieuse aux normes de l'enquête sur qu'est-ce qu'on fait des activités extrascolaires de nos enfants et en quoi ça révèle quelque chose de la société.
Un vide-grenier avec un apéro qui clôture une nouvelle année pour la revue Médor, et ce, à l'aube des 10 ans du premier numéro.
Thomas pour ce tour de l'actualité. Place à présent à nos enquêtes. On s'intéresse ce midi au cas 777. 777 Partners était jusqu'en mars 2024 le principal actionnaire du Standard de Liège. Mais avant de s'intéresser à nos enquêtes, on va vite fait refaire le point sur ce qu'est 777 avec vous, Valentin.
La société d'investissement basée aux États-Unis était active à la fois dans le sport, l'aviation, les assurances ou encore dans les crédits privés. Pas étonnant donc de retrouver 777 dans les comités d'administration de clubs comme le Hertha Berlin, Genoa FC ou encore le Standard de Liège jusqu'en mars 2024. Rappelons-le, la société avait racheté le Standard en mars 2022. Tout semblait être en règle puisque 777 Partners avait plus de 3 milliards de dollars d'actifs, 600 employés et avait investi dans plus de 50 sociétés. Pourtant, cette date marque le début de la descente aux enfers pour le club liégeois. Salaire payé en retard, difficulté pour transférer de nouveaux joueurs. C'est à partir de cette période que Benjamin Verporten, journaliste à la RTBF, a commencé à enquêter. Il a notamment travaillé sur l'implication de 777 dans l'actionnariat du Standard, des recherches qu'il a menées suite aux découvertes de Josimar, un média indépendant norvégien.
Josimar a commencé à travailler à ce moment-là quand, en fait, 777 a tenté de racheter le club de football anglais d'Everton. Et ce qui a vraiment allumé la mèche, c'est quand la fédération anglaise, qui fait un vrai screening sur les candidats au rachat, a dit à 777 « Prouvez-nous que vous êtes solide financièrement parlant ». Ils ont demandé des preuves et 777 n'a jamais fourni ses preuves. Pourtant, il injectait de l'argent dans Everton, donc il endettait Everton. Et ça, ça a interpellé Josimar. Et puis tout s'est enchaîné. Il y a eu les plaintes aux États-Unis, il y a eu la reprise des CAP pour nous amener finalement sur le dossier là où il est aujourd'hui.
Yuline, bonjour. Vous êtes étudiante en Master 1. Vous avez travaillé sur un aspect particulier de cette enquête, qui est le volet aviation. Et là aussi, on se rend compte que 777 Partners a tenté d'arnaquer son partenaire.
En effet, tout commence vers 2017, quand 777 Partners approche Timothy O'Neill Dune et le Trust Malt Family, qui est une entité qui possède des compagnies aériennes et des entreprises liées au voyage. Donc 777 Partners souhaitait leur proposer l'acquisition de certains actifs, notamment des entreprises qui leur appartenaient.
Mais si j'ai bien compris, Malte et Timothy O'Neill Dune n'ont pas été choisis par hasard.
Non, Malte est située sur l'île britannique de Man, un paradis fiscal. Et pour rappel, 777 est aussi établi au Delaware, le paradis fiscal américain par excellence. Concernant Timothy O'Neill Dune, il est l'ex-chef commercial de Flair Airlines, qui est une compagnie aérienne dans laquelle 777 a des parts. Et il est également le bénéficiaire de Malte Family Trust.
Et quel était le but final de cette tentative d'approche?
Le but de 777 Partners et de Malte dans cette affaire était de fonder Foenintia, donc une entité qui regroupe toutes les activités liées au secteur de l'aviation de 777 Partners et de Malte Family Trust. Le problème, c'est que pour Malte et Timothy O'Neill Dune, ils étaient persuadés que Foenintia allait être un grand succès et donc ils ont signé un contrat. Contrat dans lequel 777 promettait deux choses, que 777 gère Foenintia et que O'Neill Dune et Malte obtiennent des parts dans la société.
D'accord. Et au final, quel a été le problème?
Le problème, c'est que les deux anciens gérants de 777, donc Pasco et Wander, ont acheté 214 Boeing Max qui valaient 42 millions d'euros chacun, mais ils les ont loués plus cher, donc ils se sont fait une marge beaucoup plus importante. Le problème, c'est que Timothy O'Neill Dune et Malte ne l'ont découvert qu'en 2021 et ils ont donc réalisé que le business s'est fait via 777 et non pas via Foenintia comme prévu, ce qui a empêché à l'entreprise Foenintia de générer des bénéfices qui s'élèveraient à 1 milliard de dollars.
Merci beaucoup, Yuline. On reçoit à présent Michael Dantine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes criminologue à l'Université de Liège et vous vous êtes déjà intéressé au groupe 777. Et moi, je me demandais un petit peu comment vous vous étiez retrouvé à autant vous intéresser à ce groupe-là.
Bah écoutez, moi j'ai une spécialité entre guillemets qui est la criminalité économique et financière, donc je m'intéresse à toutes ces affaires et en fait, il se fait que très tôt, j'ai eu un peu la puce à l'oreille sur 777 Partners, un groupe qui se présente comme très riche et qui vient investir dans le Standard de Liège et qui très vite coupe le robinet financier. C'était un peu paradoxal. Et donc, j'ai suivi les développements qui, pour le moment, expliquent pourquoi il y avait ce paradoxe de départ avec toutes les casseroles qui les ont menées à leur disparition.
Ok, d'accord. Donc vous êtes au cœur de l'affaire, en fait, depuis le début.
Bah, au cœur de l'affaire, je n'y participe pas, mais je l'observe, je l'analyse. En tout cas, je tente de la décrypter.
Ok, donc il est important néanmoins de noter que la charge pour fraude contre 777 Partners n'a pas été retenue, mais est-ce que pour vous, est-ce que ça aurait quand même pu être considéré tout de même comme une fraude?
Alors dans ce dossier-là, non, elle n'a pas été retenue. C'est une partie de leur problème dans l'aviation, parce qu'en fait, vendre des avions, enfin louer des avions à un prix au-dessus du marché pour enrichir une société qui est la leur, pour en faire perdre de l'argent à une autre, ça, ce n'est pas permis aux États-Unis ni ailleurs d'ailleurs. Pour le surplus, quand on lit bien la décision, on voit que c'est quand même tangent. Ce sont plus des considérations de juridico-judiciaires hein, qui amènent à ça. Mais je pense qu'il faut prendre cette affaire comme un élément des techniques globales de cette partenaire, c'est qui montre qu'on gruge des gens. Et même ici, dans un business frauduleux, c'est-à-dire louer ses avions à des prix au-dessus du marché, eh bien, on gruge même ceux avec lesquels on devait commettre cette illégalité. Donc, c'est un peu particulier.
Ok. Et comment expliquer finalement que cette affaire ait mis autant de temps à éclater ?
Aux États-Unis, il y a une grande tradition. D'abord, la justice n'est pas plus rapide que chez nous, contrairement à ce qu'on peut croire. Puis, il y a une grande tradition d'essayer de trouver des accords à l'amiable avec des arrangements civils qui éteignent les procédures pénales. Donc, vraisemblablement, il y a, comme dans d'autres dossiers liés à 777, qui sont des dossiers encore plus gros, un temps de latence qui s'explique par cette volonté de chercher un compromis, qui vraisemblablement n'a pas été trouvé, puisque finalement, c'est une décision judiciaire qui est intervenue.
On passe maintenant à un autre pan de l'enquête. Et Léa, vous êtes aussi étudiante. Vous avez enquêté sur une affaire de prêts illégaux impliquant la tribu amérindienne des Rosebud Sioux. 777 Partners aurait utilisé le nom et le statut particulier de la tribu pour proposer des prêts de 200 à 1500 dollars avec des taux d'intérêt jamais vus.
Oui, tout à fait, Emma. Donc en fait, 777 Partners a mis en place des prêts usuriers. Donc ce sont des prêts avec des taux d'intérêt illégaux et anormalement élevés qui vont dépasser les 500% dans cette affaire, alors que la limite légale dans l'État d'Illinois est de 36%. Les taux impressionnants sont rendus possibles grâce à cette collaboration entre 777 Partners et la tribu amérindienne.
D'accord. Et que permet exactement cette collaboration ?
Et donc, en fait, cette collaboration, elle va permettre de contourner les lois étatiques et fédérales américaines sur l'usure grâce au statut particulier de la tribu. Donc, par exemple, si vous empruntez 500 dollars à 773% d'intérêt, vous devez rembourser plus de 1986 dollars. Donc l'objectif est de viser les personnes les plus vulnérables avec ces petits prêts attractifs qui vont placer les emprunteurs dans la quasi-impossibilité de rembourser la somme avec les intérêts.
D'accord. Et comment cela se fait-il, Michael Dantine, que cette tribu indienne jouisse de ce statut particulier ?
C'est très souvent le cas aux États-Unis. Ce sont des régimes d'exemption qui ont historiquement une racine suite au traitement que les Américains blancs ont fait aux tribus indiennes, mais aussi aux Inuits d'Alaska, c'est la même chose. On retrouve aussi des régimes un peu similaires au niveau des États-Unis. Donc c'est un vestige, si vous voulez, de ça, qui crée une espèce de système qui est vraiment très propre à ses réserves.
D'accord. Et la société Rosebud Lending, Léa, qui propose ses prêts, est en réalité entièrement gérée par 777 Partners.
Oui, tout à fait. Donc toutes les sociétés bénéficiaires et de gestion qui vont être liées de près ou de loin à 777. On a l'exemple de FE3A Servicing, donc, qui compte dans ses rangs l'épouse de Joshua Wenders, qui était le PDG de 777 au moment des faits. Donc tout est géré depuis Miami, qui est le siège social de 777, et ils ont généré 51 millions de chiffres d'affaires grâce à cette arnaque.
Et Michael Dantine, est-ce que c'est un phénomène courant ?
Triplement courant. Premièrement, 777, on le voit, utilise toute une série de paravents pour se déguiser, et ici se donner l'apparence d'être un opérateur indien, ce qu'ils ne sont pas en réalité. Donc ça, c'est la deuxième facette courante du problème. La troisième, c'est qu'en fait, ce schéma frauduleux-là, il est bien connu aux États-Unis. On va exploiter la fiscalité avantageuse et on va aussi essayer d'exploiter, et c'était le cas dans cette affaire, le fait que dans les privilèges de ces réserves indiennes, il y a un privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'ils exercent leur propre juridiction au-delà de la législation applicable. Et c'est ça aussi, cette immunité judiciaire que 777 a été cherchée à travers ce montage frauduleux.
D'accord, merci beaucoup. Et Léa, je reviens vers vous à présent. Est-ce que 777 était le seul bénéficiaire de cette combine ?
Eh bien non, car sur les 51 millions de dollars générés, comme je le disais, 3 millions, donc soit de moins de 6%, seront versés aux Sioux Rosebud, donc la tribu en question, pour l'utilisation de leur nom et de leur statut privilégié.
Et est-ce que ça continue toujours aujourd'hui ?
Donc cette situation, elle a conduit à plusieurs actions en justice, notamment des recours collectifs pour contester la légalité de ces prêts et demander des dédommagements pour les emprunteurs. 777 Partners et les victimes sont parvenus cependant à un accord à l'amiable qui a mis fin à la procédure judiciaire.
Merci Léa. J'accueille à présent Doris et Abdeslam. Vous vous êtes intéressés, quant à vous, à des publications récentes. Doris, vous avez suivi le hashtag investigation sur les conditions de travail chez Amazon.
Oui, particulièrement chez KM Group qui vient de fermer. Dans l'émission hashtag investigation de la RTBF, réalisée par Fabrice Gérard et Salvatore Guarino, on y découvre les conditions de travail compliquées des livreurs. Pour garantir sa fameuse livraison gratuite en 48 heures, Amazon travaille avec beaucoup de sous-traitants comme KM Group. Ces livreurs ont des conditions de travail extrêmement précaires qui imposent un rythme épuisant et souvent irréaliste. Des cadences infernales, 200 colis à livrer par jour, des véhicules dangereux. Ces véhicules loués par une société de leasing obtiennent pourtant la validation de leur contrôle technique sans avoir fait la moindre réparation. Côté salaire, un livreur chez KM Group gagne environ 14 euros de l'heure, mais les heures supplémentaires sont quasiment systématiquement impayées. Si vous finissez à 20 heures et qu'il vous reste des colis à livrer, vous devez terminer votre tournée, et ce, gratuitement. Et récemment, KM Group a annoncé une faillite et a licencié leurs centaines d'employés au travers d'un message WhatsApp. Il ne donne pas de préavis et ne leur a pas versé leur dernier mois de salaire.
Et est-ce qu'au niveau de la loi, on ne pourrait pas améliorer leurs conditions de travail ?
Pour tenter de réguler le secteur du transport, une nouvelle législation européenne entrera en vigueur dès juillet 2025. Tous les véhicules devront être équipés de tachygraphes, des appareils qui contrôlent le temps de conduite. Gros point noir, ça ne concerne que le transport international. Chez nous, une nouvelle loi fédérale vient d'être votée. Principales mesures, salaire minimum imposé, un meilleur contrôle des temps de conduite et une meilleure gestion de l'inscription des livreurs à la sécurité sociale. Un problème persiste, les attitudes de surconsommation d'achats en ligne avec des livraisons gratuites le lendemain entretiennent ce système de précarité des livreurs.
Merci beaucoup Doris. Et vous Abdeslam, vous avez suivi le travail de Disclose, un pure player d'investigation. Eux ont enquêté sur la loi de 2017 sur les hydrocarbures.
En 2017, Emmanuel Macron annonçait avec fierté une loi visant à mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures en France. Une première mondiale. Le pays compte 64 puits de pétrole, principalement situés dans les bassins parisiens et aquitains, où l'on extrait principalement du pétrole brut. Mais selon une enquête publiée par Disclose le 12 décembre 2024, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, 47 nouveaux puits de pétrole ont été autorisés. Oui, 47.
Et comment est-ce possible ?
La loi permet aux entreprises ayant obtenu leur concession avant 2017 de continuer leur activité jusqu'en 2040, voire au-delà. Résultat, plus de 600 sites d'extraction sont toujours en activité et des projets continuent d'être validés, comme une immense concession de 105 km² dans la Marne.
Et quelles sont les conséquences ?
Elles s'accumulent. Les nappes phréatiques, indispensables pour l'eau potable, sont menacées dans plusieurs zones de forage. L'impact environnemental est aussi colossal, des milliers de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année. Un paradoxe criant, alors que la France se veut exemplaire, elle poursuit sa course aux dernières gouttes de pétrole.
Merci Abdeslam. Mener une enquête n'est jamais un long fleuve tranquille. J'imagine, Yoline, que vous avez rencontré pas mal d'obstacles.
Oui, en effet, le problème principal, c'était la difficulté à contacter les sources et les victimes qui se trouvent aux États-Unis. Donc pour nos deux litiges, on est resté sans réponse, malgré nos nombreuses tentatives. Et donc également, pour téléphoner, il fallait une ligne internationale. Et aussi, il fallait penser au décalage horaire.
Ok, et j'imagine que la barrière de la langue a aussi dû poser problème.
Oui, un petit peu, on parle anglais, mais tenir une discussion avec des Américains, on ne l'a jamais fait. Et dans les plates, il y a énormément de termes judiciaires. Donc déjà, en français, ce n'est pas facile. Mais en anglais, c'est encore pire. Et puis même, pour contacter les sources, il fallait parler en anglais. Donc tenir une discussion, c'est faisable, mais avec des Américains, c'est beaucoup plus complexe.
Et justement, Eléa, est-ce que vous avez réussi à trouver facilement des sources ?
Eh bien, dans nos deux affaires, les plaintes ont été abandonnées, soit pour faute de preuves, soit classées avec l'accord à l'amiable, comme je le disais tout à l'heure. Donc les parties concernées, qu'ils soient victimes ou accusées, n'avaient plus vraiment de raison de s'exprimer, ce qui explique l'absence de réponse à nos sollicitations.
D'accord. Et j'imagine, Eléa, qu'un autre problème que vous avez rencontré, c'est la difficulté à trouver des experts belges pour répondre à vos questions sur une législation qui, elle, est américaine.
Donc nous avons réussi à avoir des contacts avec des professionnels de droit belge, mais ils n'avaient pas assez de connaissances en droit américain pour répondre à nos questions qui étaient plus spécifiques sur le droit civil et pénal des États-Unis.
D'accord, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les deux enquêtes sur le site www.impact.be. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48FM. Impact.